Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Il est ressuscité. Et vraiment, on peut apprécier hein, ce beau matin de la Pâques. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Et nous appelons ce jour la Pâques. La mort. Donc l'évangile, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est l'événement le plus important qui nous est jamais arrivé. Donc je vais mettre ces mots devant. J'espère que vous pouvez les lire. Par le salut en Jésus-Christ, nous avons, donc j'ai choisi plusieurs mots avec la lettre A, nous avons affranchissement de tous nos péchés. Affranchissement de tous nos péchés. Nous avons appartenance à Dieu, non à travers une église quelconque, mais par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Appartenance à Dieu. Puis nous avons accès à Dieu. Accès à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions remettre tous nos soucis à Dieu. Dieu vous écoute. Nous avons accès, excusez-moi, nous avons un avocat auprès de Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, pour continuer ou continuellement nous purifier de tous nos fautes et nos péchés. Hein? Vous vous souvenez du verset, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Aussi, un accompagnateur. Le Consolateur, le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous aide et qui nous guide à travers de sa parole. Et enfin, assurance. Assurance d'un avenir éternel préparé dans la maison du Père auprès du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les cinq mots, affranchissement, appartenance, accès, avocat, accompagnateur et assurance. Oui, avoir le salut en Jésus-Christ vaut plus que toute autre chose, même la vie ici-bas. Aujourd'hui, c'est la Pâque, nous allons parler de la Pâque. On va focaliser surtout sur cinq mots, donc plusieurs fois, à plusieurs reprises, ces mots vont revenir. Esclavage, mort en substitution, délivrance, peuple et consacré à Dieu. Ce sont les mots qui vont revenir et revenir et revenir. Quand on parle de la Pâque, de la première Pâque, on parle d'un événement historique qui, par la suite, était une fête annuelle obligatoire pour le peuple d'Israël. Donc, je raconte brièvement l'histoire. Abraham, Isaac, Jacob, notre Jacob, par la suite, est appelé Israël. Israël est le petit-fils d'Abraham. Donc, le patriarche Israël, avec sa famille, 76 personnes, est descendu en Égypte aux environs de 1805 ans avant Jésus-Christ. Et là, en Égypte, ils sont devenus des esclaves. Ils ont été réduits à l'esclavage. Plus tard, dans le temps de Dieu, Dieu voulait les amener dans la terre qu'il avait promis à Abraham. Et il voulait faire ça sous la direction de Moïse. Mais le roi d'Égypte ne voulait pas. Il ne voulait pas les relâcher. Donc c'est à travers divers et sévères jugements que Dieu a délivré Israël. Dieu a toujours raison. Alors c'était vers l'année 1450 avant Jésus-Christ. Donc ils étaient 300 ans en Égypte. 400 ans en Égypte, excusez-moi. Alors à la fin de ces jugements, comme dernier jugement, Dieu a exigé la mort du premier-né dans chaque famille. Mais en même temps, Dieu offrait une alternative. À la place de la mort du premier-né, on devait sacrifier un agneau pascal. Quand l'ange de la mort arrivait et voyait le sang de l'agneau sur la porte de la maison, il ne pouvait pas tuer le premier-né. Il devait passer au-dessous de cette maison. Le premier-né, dans une maison, dans la maison protégée par le sang, était épargné ou sauvé, épargné, car l'agneau est mort à la place de chaque premier-né en Israël. À cause de ceci, Dieu a obligé la consécration de tous les premiers-nés à Dieu. Donc, en délivrant le peuple d'Israël, les descendants d'Israël, il a formé un peuple élu, donc disons le peuple d'Israël, qui était sous la loi donnée à Moïse, et de qui, donc, sont issues les Écritures et aussi le Christ. Donc, on voit les cinq mots. Je vous rappelle les cinq mots. On voit les cinq mots. Esclavage en Égypte. Mort en substitution pour le premier-né dans toutes les familles. Délivrance, donc, de l'esclavage. Un peuple sous la loi de Moïse. Et puis, la consécration à Dieu de tous les premiers-nés. Ces événements historiques enregistrés dans la parole de Dieu concernant le premier Pâques servent d'illustration concernant la seconde Pâques. Donc la seconde Pâques, c'est notre Pâques. Par la tromperie de Satan, l'humanité a été vendue en esclavage au péché, avec toutes les conséquences et les misères. Ce n'est pas une petite affaire que de réconcilier l'homme pécheur avec le Dieu saint. Il fallait que Dieu prépare pour nous un agneau pascal qui convenait non à nos exigences, mais à ses exigences, sans défaut et sans tâche. Il fallait que l'agneau de Dieu meure en substitution à la place des pécheurs, donc à ma place et à votre place. Tous ceux qui croient dans l'agneau de Dieu sont délivrés de la condamnation éternelle et ici, donc maintenant, de l'autorité du péché dans nos vies. À partir de ceux qui croient en son Fils, eh bien Dieu forme un peuple nouveau, le corps du Christ ou l'Église. Ce nouveau peuple est identifié par la foi en Jésus-Christ, par l'immersion du croyant et par les fruits du Saint-Esprit. Donc, je vous rappelle encore les mots. Esclavage, mais non pas esclavage en Égypte, mais esclavage au péché. Mort en substitution, donc la mort du Christ en substitution pour tous et pour chacun. Délivrance, donc notre délivrance du péché et de la condamnation éternelle qui mérite nos péchés. Un peuple non sous la loi, mais sous la grâce. Et la consécration à Dieu, non pas simplement des premiers-nés, mais de toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. On peut se poser la question, n'y avait-il pas d'autre moyen? Fallait-il que le Christ meure sur la croix? Il n'y avait pas quelque autre moyen pour sauver l'humanité? Vous savez, c'est la même question que Jésus a posée quand il était dans le jardin de Gethsémané et en s'adressant à son Père, il a prié, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » C'était la même question. Est-ce obligatoire? Eh bien oui, c'était obligatoire. Il n'y avait pas d'autre moyen. Si il y avait une autre façon pour racheter l'humanité, Dieu aurait choisi cette autre façon. Mais non, il n'y avait rien d'autre à faire, pas d'autre possibilité. Et c'est pour cela qu'il est important de capter le contexte divin de cette décision, qui touchait même dans l'éternité. Avant même de créer le monde, notre existence, la divinité s'est accordée sur le seul et l'unique moyen de sauver l'humanité. Ce n'était pas un arrière-plan, mais c'était un avant-pensée. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, vers la fin de vos Bibles. 1 Pierre chapitre 1, à partir de verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais, donc, sous-entendu, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut et sans tache, verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps, donc ça veut dire au moment quand Jésus est venu, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc je vais répéter le verset 19. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Nous lisons aussi dans 2 Timothée 1, 9, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'était dans les temps éternels, avant que Dieu a créé notre existence, que le plan était mis en place pour pouvoir sauver l'humanité. Donc, soyons clairs, cette décision que Jésus-Christ devait être crucifié comme un agneau immolé, cette décision a eu lieu arrêtée avant la création. Pour nous sauver, il fallait que Dieu lui-même devienne un homme pour donner sa vie pour nos péchés. Il n'y avait pas d'autre moyen. La crucifixion, donc, n'était pas une surprise. Elle était prophétisée depuis 700 et même 1000 ans avant Jésus-Christ. Et puis quand Jésus était là, quand il était avec ses disciples, en s'approchant à la date de sa crucifixion, il a prévenu ses disciples à plusieurs fois, mais je donne une seule fois, de ce qui allait arriver. Donc je vais lire dans Marc chapitre 10, si vous voulez chercher dans vos Bibles, Marc chapitre 10, à partir du verset 32. Marc chapitre 10, verset 32. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Donc, dans l'arrêté de Dieu, dans les temps éternels, eh bien, non pas seulement la crucifixion, mais aussi la résurrection était prévue. Parce que ce n'était pas possible que la mort retienne dans ses liens l'auteur de la vie. Je voudrais souligner aussi que, dans le verset qu'on vient de lire, que non pas seulement les Juifs, mais aussi les Romains, était responsable de la crucifixion de Jésus. Les païens et les juifs, nous sommes tous coupables. Il est mort à la place de tous. Voilà, Christ, notre Pâque. Christ est notre Pâque. Jean le Baptiste, il a dit, en montrant Jésus, qui passait devant lui, ou peut-être un peu plus loin, mais il a montré en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tous les péchés du monde, pas simplement un certain nombre, tous les péchés du monde étaient ôtés par l'agneau de Dieu. Et puis Paul dit: Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc on a la mort en substitution. Jésus s'est donné en sacrifice le jour de la Pâque, comme dit Hébreux 10:10. C'est en vertu de cette volonté, donc la volonté du Père, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça veut dire que Christ, il est mort pour les péchés du monde entier, donc tous vos péchés, tous mes péchés, vous n'avez que à vous fier, à vous confier à Jésus-Christ. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Jésus a déjà tout fait pour que vous puissiez être sauvés. Je voudrais souligner que cette offrande était volontaire. Donc, vous pouvez voir dans Jean 10, versets 17 et 18, que je vais lire. Jésus a dit: le Père m'aime, parce que je donne ma vie, je donne ma vie, afin de la reprendre, donc, par la résurrection. Personne ne me l'ôte. Il n'y a personne qui a pris la vie de Jésus sans que Jésus l'a permis. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. J'ai le pouvoir, l'autorité de la donner, et j'ai le pouvoir, l'autorité de le reprendre par la résurrection. Tel est l'ordre, donc l'ordre dans l'éternité, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Aussi, on a le mot délivrance. Jésus-Christ nous a rachetés, il nous a délivrés de tout péché. En Éphésiens chapitre 1, dans le verset 7, nous lisons que le pardon est complet. Il dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ceci est une délivrance individuelle. Donc, Christ a payé pour les péchés du monde entier. Et le croyant est délivré. Il peut nous sauver parce qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Le paiement est pour tous. Pour moi, pour vous. Tous peuvent être sauvés. Vous-même, vous pouvez croire en Jésus-Christ aujourd'hui et être sauvés. Le paiement est pour tous. Mais attention, Les bénéfices du salut sont applicables seulement à la personne qui croit. Et tous ceux qui croient sont liés à Dieu en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et puis on a ce mot « peuple ». Dans le christianisme, au moins le christianisme biblique du Nouveau Testament, tous les croyants sont saints. Tous les croyants font partie du peuple de Dieu. Il n'y a pas de clergé, car tous les croyants sont consacrés à Dieu. Donc, dans le Tite, chapitre 2, verset 14, nous lisons Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Former ce peuple, c'est la volonté de Jésus. C'est pourquoi il nous sauve. Les croyants seront caractérisés par la pureté et le zèle, ou donc ce mot zèle, c'est la recherche ou l'effort de sélectionner le meilleur, zèle de faire les bonnes actions. Dans le contexte de ce verset, Tite 2,14, l'apôtre Paul soulignait la responsabilité et l'opportunité des chrétiens à vivre la vie chrétienne et ainsi de honorer et de glorifier Dieu. Donc, nous allons lire dans Tite chapitre 2. On va lire versets 11 à 14. Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et donc, ça parle de Jésus, de l'Évangile et tout ça. Donc, voilà. Toute personne, donc tous les hommes, n'importe qui, peut puiser leur salut dans la source étant la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu était manifestée. Elle nous enseigne, donc l'Évangile, du fait qu'on a cru en Jésus-Christ, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Selon ces versets 12 et 13, le salut que Jésus nous a procuré par sa mort et sa résurrection nous enseigne à renoncer à vivre et à attendre. Renoncer commence en vous détournant du mal. C'est marqué là, renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. En plus, renoncer, c'est l'idée que Dieu a toujours raison et que nous avons tort. Oui, certes, vous avez des droits, vous avez des désirs, des projets, mais pour plaire à Dieu ou pour servir Dieu, vous pouvez sacrifier certaines choses. C'est la phrase de Jésus dans Luc chapitre 22, quand il a dit « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » C'est aussi la phrase de Jésus dans Matthieu chapitre 12. « Quiconque fait la volonté de mon Père, » donc il n'a pas dit « Quiconque connaît la volonté de mon Père. » Il a dit « Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu, qui nous transforme par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, c'est dans Romains chapitre 12 et verset 2. Renoncer signifie que je m'humilie devant Dieu. C'est lui qui dirige mes pas quand il y a un conflit de direction. Renoncer signifie des changements continuels dans nos vies sur la base de ce que nous apprenons dans sa parole. Oui, le salut en Jésus-Christ nous enseigne à renoncer. Et en plus, à vivre. À vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Dieu veut que nous, les chrétiens, que nous vivions la vie chrétienne. Le christianisme est surtout un cheminement quotidien avec le Créateur Sauveur. Puisque moi, je crois en Jésus-Christ, je fais ceci ou je ne fais pas cela. Je soumets ma volonté à la volonté de Dieu, révélée dans sa parole. Une grande partie du Nouveau Testament enseigne comment nous devons vivre en tant que chrétiens. Vivre, c'est le maintenant. Dieu a tracé pour ses enfants un chemin de justice, de bienfaisance et de foi. C'est la route que son peuple purifié et zélé doit suivre maintenant que nous sommes délivrés de notre Égypte du péché et consacrés à Dieu. Et puis, le salut en Jésus-Christ nous enseigne non pas seulement à renoncer et à vivre, mais enfin à attendre. Que nous lisons dans Tite chapitre 2, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc ce mot et peut signifier c'est-à-dire. Donc je vais le relire comme ça. En attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc dans ce verset, il dit que nous devons attendre. Le mot attendre a le sens de recevoir ou accueillir une personne. Qui donc? Le Seigneur Jésus-Christ. Il va revenir. C'est en souvenir de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ que les chrétiens se réunissent le dimanche, jour de la résurrection. Et bien sûr, non pas le samedi, qui est le jour du sabbat juif. Tout au début du christianisme, 100% des croyants étaient juifs. Et donc, les premiers croyants, étant juifs, allaient à la synagogue le samedi. Et à la rencontre des chrétiens le jour de la résurrection. Donc, c'était le lendemain, c'était le dimanche. Puis, quand il n'y avait plus guère de juifs dans les communautés chrétiennes, la pratique juive d'aller à la synagogue a disparu et les chrétiens se réunissaient surtout le jour de la résurrection, le dimanche. C'est dans l'attente que Jésus revienne que nous partageons le repas du Seigneur. Ainsi, ces trois mots, renoncer, vivre et attendre, définissent le chemin chrétien. Puisque la bonté de Dieu a été manifestée envers moi, un coupable, je vais, au moins je devrais, vivre dans la reconnaissance. Le Fils de Dieu s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Chers amis, Jésus-Christ est-il votre agneau pascal? Est-il l'agneau de Dieu qui a ôté vos péchés? Sinon, qu'attendez-vous? Il est mort à la place de tous et de chacun, et il est revenu à la vie, ressuscité, pour montrer qu'il a vaincu la mort. Dieu prolonge sa patience envers l'humanité afin que le plus de monde puisse recevoir les bénéfices du salut. Si vous êtes en recherche, voici comment recevoir le pardon en Jésus-Christ et le don de la vie éternelle. Racontez à Dieu votre besoin et dites-lui que vous acceptez son Fils comme votre sauveur. Vous pourrez lui dire, donc je vais faire un genre d'exemple de prière. Père Céleste, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Il a été mon substitut en payant le salaire que méritent mes péchés. Je crois qu'il a vaincu la mort. Je crois qu'il est ressuscité. Je reconnais et je renonce à toute œuvre des ténèbres à laquelle j'aurais participé. Ici et maintenant, je reçois Jésus-Christ par la foi comme sauveur de mes péchés et Dieu de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Accorde-moi l'assurance par ta parole que tu m'as pardonné et que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous, croyants, êtes-vous engagés avec le peuple de Dieu sur le chemin de la pureté et de la pratique du bien? Il faut vivre en accord avec la parole de Dieu pour avoir la pureté et le zèle qui plaisent à Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10, « Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel, et qui a été manifesté par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Dans les temps normaux, le dimanche de Pâques est un grand jour pour tous les chrétiens. Et c'est un grand jour, mais normalement, on est ensemble, et cette année, ce n'est pas le cas. Nous partageons le pain et la coupe, qui nous rappellent de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, à notre place. En rappelant la première Pâque, le repas de cette première Pâque, il y a 3500 ans. Le repas était un agneau avec du pain non levé et des herbes amères. Un agneau pour la substitution à la place de la mort des premiers-nés. Donc le sang de cet agneau devait être mis sur la porte. Du pain non levé pour rappeler de la rapidité de la délivrance. Il fallait quitter l'Égypte maintenant. Et puis, les herbes amères pour rappeler l'amertume de leur séjour en Égypte. Dieu a ordonné la célébration annuelle de la Pâque pour commémorer la délivrance de la nation d'Israël de l'Égypte. Puis, pendant cette fête annuelle, Dieu a ordonné que le souverain sacrificateur fasse chaque année le sacrifice pour expier les péchés du peuple d'Israël. Les chrétiens ne pratiquent pas la première Pâque, la Pâque juive, car Christ, notre Pâque, a été offerte une fois pour toutes. Son sacrifice ne s'arrête pas. Ce n'est pas un sacrifice hebdomadaire, mensuel ou annuel. C'était une fois pour tout. Donc, par le repas du Seigneur, les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection de Jésus. Par lui, nous sommes délivrés de nos péchés. Sa mort est symbolisée par le pain et la coupe. C'est une image, une illustration pour nous rappeler qu'il est mort pour moi, pour chacun. Frères et sœurs, même si les circonstances actuelles ne nous permettent pas d'être sous le même toit, pour se rappeler de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes cependant unis en esprit pour glorifier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne Pâque. Amen. À la semaine prochaine.